une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque l'on trouve si
Billets d'Afrique et d'ailleurs est inspiré pour ce mois de décembre 2025 de la revue de l'association Survie de son nouveau nom Décolonisons, d'un communiqué de presse de la Confédération paysanne à propos des importations de tomates cerises depuis le Sahara occidental sous étiquette Maroc, importation illégale, concurrence tout à fait déloyale, notamment parce que détaxée du fait de l'inclusion de ce commerce dans l'accord Union européenne-Maroc, et puis de la réaction de l'ONG WSRW, Observatoire des ressources du Sahara occidental, sur le vote au Parlement européen. La politologue chercheuse au CNRS Catherine de Vanden donnait une conférence à Aubenas sur les migrations et les préjugés à déconstruire la semaine dernière. Elle nous en parle pour cette émission au sujet de l'Afrique et aussi de Mayotte. Diffusion de l'émission les 5 et 19 décembre. Pour ceux qui écoutent la première diffusion dimanche 7 décembre, le MRAP propose au cinéma Le Navire à Aubenas la projection de deux films. À 17h30, Disco Africa, une histoire malgache de Luc Razanajuana. À Madagascar aujourd'hui, Kwame, 20 ans, tente de gagner sa vie dans les mines clandestines de Saphir. Et suite à un événement inattendu, il doit rejoindre sa ville natale où il retrouve sa mère, d'anciens amis, mais aussi la corruption qui gangrène son pays. Ballotté entre des sentiments contraires, il va devoir choisir entre argent facile et fraternité, individualisme et éveil à une conscience politique. À 20h30, c'est le film « Tropique de la violence » de Manuel Chapira, de 2020. Et c'est Mayotte, un territoire oublié de la République. À la mort de sa mère, le jeune Moïse rejoint un bidonville peuplé de mineurs entièrement livrés à eux-mêmes. Il y fait la rencontre de Bruce, chef de clan tyrannique et imprévisible. Sur cette île en train de s'embraser, le destin de Moïse bascule. Entre les projections est proposé un buffet de l'océan Indien.
Catherine de Vanden, je suis chercheur au CNRS et je suis venue à Aubenas pour parler de l'immigration dans le cadre d'un ensemble de manifestations culturelles concernant l'Afrique. Alors, je ne peux pas parler de tout, je voudrais juste dire deux, trois choses qui me tiennent à cœur. La première, c'est que les Africains, c'est une très grande diversité de population. Donc, on ne peut pas dire les Africains en général, ce qui est souvent très réducteur parce qu'il y a une très grande diversification de situations aussi bien économiques, sociales, culturelles, religieuses à l'intérieur du continent africain. Et pour ce qui est de mon sujet des migrations, la plupart des migrants africains migrent en Afrique. Aujourd'hui, on a, selon l'ONU, 29,5 millions de migrants africains en Afrique, surtout vers l'Afrique du Nord, le Maghreb, mais aussi vers l'Afrique du Sud, qui est un pôle économique également très important. Et le troisième pôle, qui est hors d'Afrique, mais qui est proche, c'est les pays du Golfe, qui attire une très grande main-d'œuvre, pas seulement africaine, mais également venant d'Asie, comme le Bangladesh, le Pakistan, etc. Donc, les Africains ont une très grande tradition de mobilité. On a souvent parlé du nomadisme, mais pas seulement. Et cette mobilité a été aussi exploitée pendant la période coloniale. C'est-à-dire que les pays qui avaient des ressources, mais qui avaient peu de main-d'œuvre, attirait ou était orienté vers une main-d'œuvre qui venait de pays qui avaient de la main-d'œuvre mais peu de ressources. Je prends un exemple, le Burkina par rapport à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a beaucoup de ressources, notamment agricoles, puisqu'elle produit beaucoup de cacao, ça doit être le premier producteur. Elle produit du caoutchouc de façon très importante, elle produit du café, et beaucoup d'autres choses, parce que le climat est un climat chaud et humide. La tradition a été, pour les Burkinabés, qui sont un pays semi-désertique, d'aller travailler en Côte d'Ivoire. Donc cette tradition, elle s'est perpétuée, aussi bien dans la période coloniale qu'après la décolonisation, d'où le débat d'ailleurs sur l'ivoirité qu'on a eu en Côte d'Ivoire pendant quelques élections présidentielles, parce que il y avait eu un regain de sentiments identitaires et hostiles, précisément comme on le trouve aujourd'hui pour l'immigration, de faire nation en écartant les autres qui ont travaillé depuis fort longtemps en Côte d'Ivoire comme migrants. On aurait beaucoup d'autres exemples du même genre. Aujourd'hui, à titre professionnel, je vais de temps en temps dans les pays du Maghreb, et les pays du Maghreb sont en train de devenir des pays d'immigration, d'installation, pas seulement des pays de départ, des pays de transit aussi, mais aujourd'hui il y a eu toute une migration subsaharienne qui migre vers le Maghreb pour des raisons à la fois économiques mais aussi d'instabilité politique chez eux. Et il y a une certaine tolérance à l'égard de cette population sans statut, si j'ose dire, mais en même temps avec peu de possibilités de se faire régulariser et aucune possibilité d'avoir le statut de réfugié. C'est un phénomène que l'on remarque de plus en plus. Il y a de plus en plus de transmigrants au Maghreb, par exemple, qui sont une sorte de figure sociale de celui qui est entre deux, qui ne sait plus très bien s'il doit repartir chez lui, ce qui serait la honte vis-à-vis de sa famille, aller plus loin mais avec beaucoup de risques, traverser la Méditerranée, c'est également très coûteux, ou rester sur place en vivant plus ou moins bien, en vivotant petits métiers qu'ils peuvent trouver sur place, avec des nouvelles formes de présence, par exemple ce qu'on appelle les églises de maison. Au Maghreb, la population est essentiellement de culture musulmane, mais une partie des migrants sont chrétiens. Donc en fait, ils s'inventent une pratique de leur religion qu'ils avaient chez eux, dans un pays de culture musulmane, de façon plus ou moins tolérés, plus ou moins cachés dans les caves, les sous-sols, pour non seulement continuer à pratiquer leur religion chrétienne, mais aussi créer des espaces de sociabilité autour du religieux qu'ils ne peuvent pas trouver avec des musulmans, puisqu'ils n'en partagent pas la religion, qu'il s'agisse d'autres subsahariens ou alors de gens du Maghreb, par exemple. Il ne faut pas oublier que dans les pays du Maghreb, notamment au Maroc, le roi est le commandeur des croyants, qu'il y a une certaine tolérance religieuse, mais qu'en même temps, l'apostasie est très violemment punie, c'est-à-dire le fait de changer de religion. Donc il n'y a pas du tout d'intention d'ailleurs de convertir, comme on l'a fait dans la période coloniale, mais il y a surtout l'idée de pouvoir pratiquer sa religion dans un espace où il n'y a pas beaucoup de pluralisme religieux. Ça, c'est une des conséquences de ces formes d'installation. D'autres caractéristiques, c'est la gestion de la frontière. Ces pays sont pris entre la pression des pays européens pour qu'ils contrôlent leurs frontières au départ, et en même temps l'arrivée de nouvelles populations qui finit par s'installer chez eux de façon informelle, tout en voulant garder de bons rapports avec les pays d'où ils viennent pour construire différents espaces en Afrique de l'Ouest, par exemple la communauté des États d'Afrique de l'Ouest qui a été intégrée récemment par le Maroc. Il y a d'autres espaces de libre circulation à des fins de travail en Afrique, 4 ou 5. Et dans l'ensemble, il y a une volonté aussi sur la scène internationale d'être lié, si j'ose dire, avec ces pays subsahariens. Donc la contradiction entre l'intérêt diplomatique qui consiste à essayer de s'unir face à l'Europe, mais aussi d'accepter de la part de l'Europe, en échange d'accords de développement, un certain nombre de dispositions concernant la fermeture de leurs propres frontières, fait qu'ils sont pris dans une contradiction qui est aggravée par le fait que beaucoup de ces pays, notamment du Maghreb, mais pas seulement, sont récepteurs de transferts de fonds. Donc s'ils appliquaient à fond la politique d'empêchement de partir, ils recevraient plus d'argent des migrants qui sont partis pour envoyer de l'argent. Donc aujourd'hui, c'est 18% de la balance des paiements du Maroc. Par exemple, les transferts de fonds des migrants, c'est énorme pour un pays comme le Mali, qui est très pauvre. Donc il y a tout un équilibre difficile à trouver, un peu hypocrite des deux côtés, du côté de l'Europe et du côté des pays du Sud, dans cette gestion de leurs frontières. Le dernier point, c'est le développement d'une diplomatie des migrations. Les pays du Nord essayent de mener à l'égard du Sud, qui essayent eux-mêmes d'être présents dans ce dialogue, pour en tirer éventuellement quelques bénéfices, mais surtout pour essayer d'échapper à une très forte pression qui consisterait à dire « faut que vous acceptiez les fameuses OQTF, les reconductions à la frontière, etc. » Les pays restent souverains, fort heureusement, d'accepter ou de refuser les gens qu'on leur envoie. Donc souvent, c'est parce qu'il n'y a pas d'acceptation de reprendre les sans-papiers, c'est-à-dire de certification consulaire, qu'il y a une surenchère des pays européens vis-à-vis de ces pays en disant on va vous promettre des accords de développement, on va reconnaître la marocanité du Sahara occidental, comme l'a fait notre président de la République, pour essayer que le Maroc soit en meilleure disposition pour accepter les reconductions à la frontière. Il y a toute une négociation autour de ça, une multiplication effrénée d'accords avec l'Afrique autour de l'externalisation des frontières, faire en sorte que les pays gèrent eux-mêmes les départs et acceptent aussi les gens qu'on va leur renvoyer. Aujourd'hui, le terrain de la diplomatie migratoire a pris une ampleur considérable.
En plein milieu de l'été, le Crédit Coopératif, dont le slogan « Oser et une autre banque est possible », a fermé le compte de l'Union juive française pour la paix, UJFP. Au moment où Israël mène un génocide à Gaza, cette organisation antisioniste, laïque et anticolonialiste, qui lutte depuis 1994 pour une paix juste au Proche-Orient, s'efforce de poursuivre son soutien à la population gazaoui. Initialement en lien avec le secteur agricole, l'aide s'est aujourd'hui réorientée vers ce qu'il y a de plus urgent en termes d'habitat, d'alimentation ou encore de scolarisation. 700 000 euros auraient ainsi transité des comptes français de l'association depuis décembre 2023 vers l'enclave palestinienne, info du Monde du 22 août. Serait-ce une raison de cette clôture de compte ? Jusqu'ici, la banque est restée très floue quant à ses motivations. A-t-elle cédé aux menaces qu'elle dit avoir reçues ? Ou à un coup de pression d'un État français prompt à faire taire toute critique d'Israël, on se souvient notamment de la dissolution du collectif Palestine vaincra, et qui continue à armer l'armée génocidaire. Ou s'agit-il d'une cabale interne des sociétaires du Crédit Coopératif ? Cela reste à éclaircir. Dans tous les cas, Survie tient à apporter son soutien aux militants de l'UJFP, d'autant plus que le Crédit Coopératif est aussi sa banque. Damalikate, oyer maturu ya marme, yer mali bero, me mali chile sime. Damalikate, oyer maturu ya marme, yer mali bero, me mali chile sime. Un parachute france-africain. La mobilisation de la génération Z, ou Gen Z, à Madagascar vient de connaître un dénouement que l'on espère heureux, mais en partie contrarié par la France. Depuis plusieurs semaines, et malgré une violente répression, 22 morts, des dizaines de blessés, la jeunesse malgache se mobilisait contre un régime de corruption généralisée, incapable d'assurer les services essentiels qu'il doit à sa population. Le 11 octobre, le corps de l'armée, le CAPSAT, a fait défection, refusant de tirer sur les manifestants. Bientôt rejoints par le reste de l'armée, leurs officiers ont imposé un nouveau chef d'état-major et pris le pouvoir qu'ils ont promis de rendre rapidement aux civils. À voir. Entre-temps, le président Andry Rajoelina, dont la génération Z réclamait la démission, a disparu des écrans radars. Et pour cause, renouant avec une vieille tradition france-africaine, l'armée française l'avait précipitamment exfiltré du pays, révélé RFI le 10 octobre 2025, Un accord de président à président aurait permis cette exfiltration. Avant de s'enfuir, le président déchu signait un décret accordant une grâce présidentielle à 8 prisonniers, parmi lesquels un Français et un franco-malgache. Non seulement Rajoelina n'aura pas de compte à rendre, mais il peut, grâce à la France, tenter de s'accrocher. Il a ainsi décrété la dissolution de l'Assemblée nationale pour éviter que celle-ci ne constate la vacance du pouvoir et a appelé à respecter la Constitution. Comme en écho, c'est la même consigne que le président français a cru devoir donner, prenant le parti de la répression contre ceux qui défendent leurs droits, appelant à ce que l'ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle, soit préservée à Madagascar, parce qu'il y va de la stabilité du pays et des intérêts de la population. On regarde la jeunesse de ces pays avec beaucoup d'admiration, d'affection, ajoutait Macron. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires ou des ingérences étrangères. Alors que la seule ingérence politico-militaire est aujourd'hui la France, quelle plus belle leçon de cynisme, d'hypocrisie et de paternalisme. Si l'exfiltration et la déclaration de Macron ont scandalisé les Malgaches, elles n'ont suscité aucune réaction politique en France. Évidemment, rien de nouveau sous le soleil. Les ingérences étrangères que dénonçait aussi le pouvoir malgache pour discréditer les manifestants, c'est l'épouvantail commode brandi systématiquement lorsque les intérêts français sont menacés. Il faut dire que Rajoelina, parvenu au pouvoir une première fois avec l'aide de la France en 2009, naturalisé français en 2014, avait su tout à la fois ménager les entreprises françaises et, comme son homologue comorien au sujet de Mayotte, ne jamais dépasser le stade des déclarations de principe concernant la restitution des îles éparses toujours fermement détenues par la France. Exfiltration décidée secrètement par un président français lui-même en proie à une crise de régime, quelle meilleure illustration des prérogatives monarchiques attachées à une Ve République en bout de course, en même temps que de la persistance du néocolonialisme français. Il s'agit bien entendu de montrer aux autres dirigeants africains l'avantage qu'ils peuvent trouver à maintenir de bonnes relations avec l'Élysée pour que l'armée française reste leur ultime garantie en cas de réveil des peuples. Texte de Raphaël Granvaux. À Mayotte, la PAF tue. L'enquête menée par plusieurs médias européens, Lighthouse Reports, Le Monde, Der Spiegel, Le Time et Arte, et publiée le 16 septembre, conclut à la responsabilité de la police aux frontières, la PAF, dans de nombreux naufrages dont sont victimes les Comoriennes et Comoriens qui tentent de rejoindre Mayotte. Sur la base d'enquêtes judiciaires et administratives, ainsi que de témoignages de rescapés et même de cadres du ministère de l'Intérieur, elle dénonce une pratique habituelle des vedettes de la PAF chargées d'intercepter les kwassa-kwassa transportant des migrants, les faire chavirer et même les percuter, provoquant blessures, mutilations, noyades. La police française est responsable des morts ou disparitions d'au moins 24 personnes, y compris des femmes enceintes et des enfants, lors d'interceptions violentes en mer au large de Mayotte, écrit ainsi Lighthouse Reports. Et rapporté par exemple le témoignage glaçant de deux rescapés du naufrage du 15 juillet, « Notre embarcation s'est déchirée, tout le monde est tombé à l'eau ». Ils nous ont regardés nous noyer sans bouger. Ce mépris pour la vie humaine exprime tout le racisme inhérent au colonialisme. Nécessité fait loi, explique ainsi au Monde un cadre du secrétariat d'État à la mer. C'est un peu cynique, mais c'est comme ça. Et puis, le risque médiatique et politique est sans commune mesure. À Mayotte, si 10 personnes meurent, il n'y a pas de sujet. À la tribune de l'ONU, le 24 septembre, le président comorien Azali Assoumani, pourtant grand ami de la France, s'est senti obligé de réclamer une enquête.
mot sur Mayotte.
Ouais.
Alors, c'est très difficile à gérer, Mayotte, puisqu'aujourd'hui, c'est un nouveau département français au milieu de quatre îles, dont les trois autres ont pris leur indépendance maintenant, il y a 50 ans. Et donc, l'écart qui était, s'est creusé entre Mayotte, département français, surtout en termes de services publics, même s'ils ne sont pas très développés par rapport aux trois autres îles des Comores qui sont parmi les pays les plus pauvres du monde, il faut le rappeler. L'attraction se fait moins sur l'idée d'acquérir le droit du sol que de bénéficier d'un minimum de services publics comme notamment les hôpitaux. Le droit du sol, je ne pense pas, soit tellement attractif dans 18 ans, puisque la France n'est pas un pays de plein droit du sol. Pour devenir français, il faut être né sur le territoire français, donc Mayotte éventuellement, mais ensuite avoir acquis l'âge de la majorité et avoir vécu 5 ans de façon ininterrompue sur notre territoire pour devenir français. Alors, il faut vraiment que les gens de Mayotte aient une vision à long terme pour penser à cette fameuse nationalité française, ou que les mères qui accouchent se disent « dans 18 ans, mon enfant va devenir français », mais c'est surtout l'écart qui s'est creusé. Il n'y a pas de solution, en réalité, pour Mayotte. La seule solution, ce serait soit d'abandonner Mayotte, ce que certains disent, d'ailleurs, pour éviter l'attraction de Mayotte par rapport aux îles des Comores et la difficile gestion des sans-papiers, qui coûte très très cher, avec des morts. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des morts à la clé. Ou alors un espace de libre circulation local qui permettrait de revenir sur le fameux visa Balladur qui avait été mis en place en 1998 pour bloquer l'accès de Mayotte aux autres Comoriens, alors que souvent ils ont des liens familiaux forts avec l'ensemble des îles, et qui permettrait à ces gens d'aller et venir comme ils faisaient auparavant, sans nécessairement se sédentariser dans la pauvreté, pour ne pas dire dans la misère, parce qu'ils ne peuvent plus repartir s'ils sont entrés clandestinement.
Total en Afrique, un revers et des puits. Un revers pour Total Energy et une première victoire pour les victimes du méga-projet Tilenga Eacop de la multinationale en Ouganda et Tanzanie, et pour les associations ougandaises et françaises qui les défendent. Afiego, les Amis de la Terre Ouganda, Tasha Research Institute et Survie. Le 18 septembre, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné au groupe pétrogazier de communiquer des documents qu'il s'est toujours refusé à fournir. Ils permettront aux plaignantes de mieux évaluer le respect ou non par Total de ses obligations et les préjudices que ce projet a causés aux populations et à l'environnement pour obtenir réparation. Les obstacles à la vérité que multiplie notre fleuron tricolore, tout comme son non-respect du devoir de vigilance que lui impose la loi en matière de droits humains et environnementaux, sont à la mesure des profits extractivistes considérables qu'il compte faire jaillir des 419 puits de pétrole de Tilenga en Ouganda, l'oléoduc Eacop transportant ensuite sur 1443 km l'or noir jusqu'au port tanzanien de Tanga. Un enjeu bien révélateur des ambitions africaines de la multinationale, aujourd'hui réaffirmée. Il vient ainsi d'annoncer le redémarrage sur le site gazier d'Afungi du projet écocide Mozambique GNL, le plus gros investissement étranger jamais réalisé en Afrique, 20 milliards de dollars, suspendu du fait de menaces djihadistes. Et Total multiplie les licences d'exploration pétrolière. Rien qu'en septembre, il en a obtenu une au Congo, une en Namibie, deux au Nigeria, quatre au Libéria. La réalité de son prétendu engagement pour la transition écologique. La France, c'est le génocide des Tutsis en cassation. Pendant le génocide des Tutsis d'avril à juillet 1994, l'Élysée, pour maintenir la zone d'influence française, n'a pas dénoncé l'accord d'assistance militaire de 1975 avec le Rwanda. Une vingtaine de rescapés et deux associations poursuivent l'État français devant la justice administrative pour ses actions et inactions illégales. Leur recours vise la livraison d'armes, l'inaction face aux miliciens, notamment pendant les trois jours de massacre à Bicizreau, ou aux radios de la haine, le non-désarmement des génocidaires. Après une attente inhabituellement courte de 6 semaines, la cour d'appel administrative l'a rejetée. En cassation devant le Conseil d'État, leur mémoire détaillée a été déposée mi-septembre 2025. En parallèle à la justice pénale, il est demandé de juger les rôles individuels de responsables français comme le chef d'état-major de l'armée, l'amiral Langsade. Or, le dossier pénal concernant Bicizreau, soutenu par Survie, a lui aussi été rejeté en appel. En cassation, le mémoire détaillé a également été déposé mi-septembre 2025. Enfin, complétant cette coïncidence de date, mi-septembre, un journaliste et deux membres de Survie se sont également pourvus en cassation. Leur demande d'archives militaires de la France au Rwanda avait été rejetée au nom du secret défense. Censé protéger la défense nationale, ici il entretient surtout l'opacité sur les décisions françaises pendant le génocide. Communiqué de presse de la Confédération paysanne, syndicat pour une agriculture paysanne et de défense de ses travailleuses et travailleurs. Accord Union européenne-Maroc, nous dénonçons la concurrence déloyale des importations illégales du Sahara occidental occupé. Le matin du 26 novembre, une soixantaine de paysannes et paysans ont bloqué un centre de logistique de l'entreprise Azura, le principal importateur franco-marocain de fruits et légumes issus des territoires occupés du Sahara occidental. Cette action vise à dénoncer la concurrence déloyale que subissent les productrices et producteurs de l'Union européenne, ainsi que la violation des droits du peuple sahraoui. La Confédération paysanne a également décidé de poursuivre son combat en assignant aujourd'hui le groupe Azura avec la société Mareissa devant le juge civil français pour fraude fiscale sur les taxes d'importation. Dans cet accord de libre-échange Union européenne-Maroc, il y a les territoires occupés du Sahara occidental dont les entreprises multinationales pillent les ressources sans aucune retombée économique pour les Sahraouis. Ces entreprises exportent illégalement des productions étiquetées Maroc alors qu'elles proviennent du Sahara occidental. La nouvelle version de l'accord entré en vigueur en octobre, négociée en opacité par la Commission européenne, crée artificiellement des règles d'étiquetage basées sur de nouvelles régions d'origine légalement infondées. La Confédération paysanne demande aux eurodéputés de s'opposer le 26 novembre à ces modifications lors du vote convoqué par la Commission agriculture du Parlement européen. Ces importations de fruits et légumes, tomates, melons, arrivent en France à moindre prix et concurrencent nos propres productions en tirant vers le bas les prix et les normes sociales et environnementales qui sont quasi inexistantes dans ces territoires. Pour empêcher d'un côté la concurrence déloyale et d'autre que des produits issus de la colonisation et ou du pillage arrivent à bas prix sur les marchés, nous, la Confédération paysanne, avons besoin d'outils de commerce qui protègent le revenu des paysannes et paysans et leur souveraineté, quelle que soit leur origine, aussi bien du Sahara occidental que du Maroc. C'est pourquoi la Confédération paysanne défend la mise en place d'outils de commerce au service de la souveraineté des peuples, tels que le prix minimum d'entrée, PMDE, qui permet d'assurer des revenus décents aux productrices et producteurs. Les PMDE s'appliquent aux frontières de chaque pays. Ils ne sont pas un obstacle aux échanges, mais ils encouragent les pays exportateurs à s'aligner sur des standards de production mieux disant. C'est aussi une protection contre les logiques impérialistes qui utilisent le commerce comme une arme de domination contre les peuples, bafouant au passage le droit international. À l'inverse des accords de libre-échange, les prix minimums d'entrée n'excluent pas, ils reconnaissent la dignité de l'autre en payant le juste prix. Le Parlement européen bloque presque la tentative du Maroc de rafler l'étiquetage. Les eurodéputés ont eu le 26 novembre une occasion en or de défendre les consommateurs européens. Fort d'une solide majorité, le Parlement a failli faire tomber la Commission européenne. Manifestant clairement sa désapprobation, le Parlement européen a rejeté le projet de la Commission européenne de renommer les produits du Sahara occidental occupé en le faisant apparaître comme provenant de régions marocaines. Une large majorité a voté contre la proposition, mais à un cheveu, le vote n'a pas permis de la bloquer formellement. La Commission tente, de manière controversée, de contourner des arrêts antérieurs de la Cour de justice de l'Union européenne. Le vote du 26 portait sur l'opposition du Parlement à la proposition de modification par la Commission du règlement délégué de référence 2023-2429 relatif à l'étiquetage d'origine des fruits et légumes du Sahara occidental. Plus précisément, la Commission avait proposé en octobre 2025 d'utiliser les noms des régions administratives que le Maroc a unilatéralement imposées au territoire sur lequel il n'exerce aucune souveraineté, soit l'Aïoun, Sakia El Hamra et Dakhla Oued Dahab. Ces divisions territoriales ne sont reconnues ni par l'ONU, ni par l'Union européenne, ni par la Cour de justice de l'Union européenne. Cette mesure intervient malgré un arrêt clair de la Cour de justice de l'Union européenne stipulant que les produits provenant du Sahara occidental doivent être étiquetés comme tels et ne peuvent être désignés par des appellations territoriales marocaines. Les propositions des groupes politiques PPE et PFE ont été rejetées de justesse. Un seul parlementaire de plus en faveur de la proposition du PPE aurait suffi à rejeter le règlement délégué. La motion nécessitait 369 voix pour être adoptée. Or, seuls 359 parlementaires ont voté pour, 188 ont voté contre et 76 se sont abstenus. La motion du groupe PFE a recueilli 465 objections, 157 votes pour et 20 abstentions. La motion du groupe politique PPE a été rejetée à une voix près, mais le message politique est on ne peut plus clair. Une large majorité de députés européens a rejeté la manœuvre de la Commission visant à adapter les règles de l'Union européenne au profit du Maroc et a défendu le droit européen, le droit des consommateurs et les agriculteurs européens. Le fait que des motions aient été déposées par des groupes politiques généralement plus proches du Maroc est révélateur d'un changement de cap, souligne l'ONG Western Sahara Resource Watch. Il s'agit d'un revers important pour le Maroc en matière de lobbying et un signal fort pour les batailles à venir. La légalité et les moyens de subsistance des agriculteurs européens sont enfin de nouveau au cœur des décisions parlementaires. Les eurodéputés français, espagnols et italiens qui ont voté contre et se sont abstenus devront répondre à de sérieuses questions de la part de leurs électeurs ruraux. Lors de la réunion de la Commission de l'agriculture du Parlement européen la semaine d'avant, la Commission a ouvertement admis que la notion de région d'origine était le fruit de négociations avec le Maroc et ne pouvait fournir aucune base juridique pour s'écarter de la jurisprudence établie de la Cour de justice de l'Union européenne et des règles de commercialisation de l'Union européenne. Des eurodéputés de tous bords politiques avaient vivement critiqué cette position. Les deux objections déposées, donc l'une par le PPE et l'autre par le PFE, arguant que la proposition de la Commission violait le droit de l'Union européenne, induisait les consommateurs en erreur et résultait de négociations avec le Maroc plutôt que d'une nécessité juridique. Bien que ces objections aient recueilli des soutiens, la majorité requise n'a donc pas été atteinte. Ce résultat ne discrédite pas les préoccupations de fond soulevées lors des débats en commission agri. Premier point, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne exige que les produits provenant du Sahara occidental soient étiquetés « Sahara occidental » sans aucune référence au Maroc ou à ses régions. Il est donc permis de douter que la dérogation de la Commission soit compatible avec la jurisprudence de la Cour. Deuxième point, l'Union européenne a déjà fait l'objet de plusieurs annulations de ses mesures Union européenne-Maroc par la Cour de justice de l'Union européenne, a adopté un acte délégué qui semble contredire la jurisprudence établie, risque d'entraîner de nouveaux contentieux. Troisième point, la Commission a admis que la terminologie relative à la région d'origine était issue de négociations avec le Maroc, ce qui soulève des questions quant à l'influence d'un pays tiers sur les règles internes de l'Union européenne. Quatrième point, le remplacement de l'indication véridique Sahara occidental par des noms inconnus, qui existent également dans d'autres pays, obscurcit l'origine, induit les consommateurs en erreur et crée une fausse impression de souveraineté marocaine. Bien que le Parlement n'ait pas bloqué l'acte délégué, le débat a révélé une inquiétude transpartisane sans précédent quant à la légalité de la proposition et sa conformité avec les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Il est donc peu probable que cette décision mette fin à la question, tant sur le plan institutionnel que juridique.